C'est pas sorcière.
Moi, c'est Marion.
Et moi, c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière,
le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie,
les pratiques ésotériques.
Et on voulait commencer cet épisode numéro 2. Vous avez vu, on a réussi à faire un deuxième épisode. Par remercier toutes les personnes qui ont écouté l'épisode 1. On a été vachement surprise de l'accueil qui a été réservé à cet épisode.
Oui, merci.
Et du coup, merci. En particulier, merci à la Suisse qui compte 5% de nos auditeurs. Donc, on ne sait pas qui vous êtes. Merci les Suisses.
Merci la Suisse.
Bien votre fromage.
Merci de votre soutien, de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux si vous l'avez fait, et aussi pour vos retours si vous nous en avez donné, c'est toujours utile.
Et si vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux, et ben on vous conseille de le faire.
Ouais, parce qu'on publie plein de trucs très chouettes et de très bonne qualité.
On met des petites photos de nos chroniques pour que vous ayez les images qui vont avec les mots que l'on vous raconte.
Du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi, Louise ?
Et bien, pour ce deuxième épisode, je suis allée dans le cliché de la sorcière avec une histoire très traditionnelle de comment on s'imagine les procès de sorcières avec des jugements, du bûcher. Et du coup, je vais vous parler de l'histoire de Jeanne Arvilliers.
Ouh, mais qui est-elle ?
Je veux pas te le dire tout de suite. Écoute, toi, Marion, tu vas nous parler de quoi ?
Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de Kitchen Witch.
Kitchen Witch. Est-ce qu'elles ont des kitchenettes ?
Probablement pas.
C'était une blague extrêmement mauvaise.
Merci pour cette intervention. Et du coup, on reste très, très, très image de la sorcière aujourd'hui. Parce qu'on va parler de chaudron et d'une dame qui apparemment est à fond dans l'essence de l'image qu'on se fait de la sorcière.
Surtout l'image de la sorcière dans l'histoire. Parce que l'image de la sorcière dans la culture populaire, c'est encore autre chose.
C'est pas faux. Bon, du coup, moi, j'ai hâte de savoir de ce dont tu vas parler, parce que je ne t'ai pas demandé quel était le sujet de ta chronique, et je vais découvrir avec les auditeurs en live.
Je suppose que tu n'as jamais entendu parler de Jeanne Arvilliers.
Non.
Je pense que pas beaucoup de gens ont déjà entendu parler de Jeanne Arvilliers, à part les gens qui s'intéressent à l'histoire de la sorcellerie.
Mais qui est cette dame ?
Eh bien, je vais te le faire découvrir.
Loupi.
Alors, je t'emmène cette fois-ci au XVIe siècle en France, avec une histoire de maléfices, de jugements et de bûchers. Et cette histoire, c'est l'histoire de Jeanne Arvilliers. Comme on l'a dit, son nom n'est pas très connu aujourd'hui, pourtant c'est une des figures majeures de la chasse aux sorcières en France, et vous allez découvrir pourquoi, restez à l'écoute, je fais du teasing. Jeanne Arvilliers, donc, est née en 1628 à Verberie dans l'Oise. Est-ce que tu connais Verberie ?
Non, mais je connais l'Oise, vite fait.
Ah, et avant de commencer à raconter la vie de Jeanne, je tiens à faire une alerte. Attention, fake news, désinformation, parce que tout ce qu'on sait sur l'enfance et la vie de Jeanne va être raconté par l'homme qui a fait son procès, dont je vais vous parler un peu plus tard. Attention, nouveau teasing. Du coup, ça fait que la fiabilité de ces informations sont très faibles, puisque le mec s'est sûrement pas posé avec elle tranquillou à un café pour essayer d'écrire sa biographie.
D'accord. Et pas full objectivité ici aujourd'hui.
Donc du coup, Jeanne Arvilliers, d'après les écrits, elle est née d'une mère qui serait une prostituée, et d'après le mec qui a écrit sa biographie, il décrit sa mère comme... consommée dans l'art des maléfices. Et Jeanne, quand elle a 12 ans, sa mère va lui présenter un homme en noir. Et malheureusement pour Jeanne, cet homme en noir, ce n'est pas un mec trop fan du film Men in Black.
Non.
Le mystérieux homme en noir de Jeanne, il est vêtu comme un cavalier, il a une épée. Et il va dire à Jeanne que si elle se voue corps et âme à lui, il va satisfaire tous ses désirs. Jeanne va y consentir.
Non, ça commence trop mal.
Mais je rappelle que Jeanne a 12 ans. Elle est donc bien en dessous de la majorité sexuelle en France, qui est de 15 ans. Sauf que nous sommes au 16e siècle, donc voilà.
les jeunes filles étaient des vaches.
Hein. Des vaches. Et donc cet homme en noir va régulièrement rendre visite à Jeanne. et en échange des faveurs de Jeanne, il va lui enseigner la magie et ça va durer 38 années.
Ah mon Dieu ! Ah mon Dieu !
Dans le malaise.
Ah !
Petit saut dans le temps, en 1548, quand Jeanne a 20 ans, sa mère et elle sont arrêtées pour soupçon de...
Sorcellerie !
Bon point ! Jeanne va arrêter et être fouettée. Par contre, sa mère, elle va pas vouloir avouer et du coup, elle sera brûlée vive.
On a deux sorts tout à fait enviables.
Ah, super, l'enfance de Jeanne continue sur la bonne humeur. Voilà, voilà. Et suite à cet événement un peu traumatique, Jeanne va quitter la région et elle va partir dans l'Aisne où elle va se marier avec le consentement de l'homme en noir qui veut bien qu'elle se marie. Il va juste lui demander de pouvoir continuer à la voir.
Qui est cet homme en noir, en fait ? On veut savoir, on veut comprendre. Pourquoi c'est pas son procès, à lui ?
Tu sauras après. Donc, suite à son mariage, Jeanne va mettre au monde une fille qui s'appelle Rosalie. Donc maintenant, on va entrer dans le scandale de sorcellerie que j'avais teasé au début de ma chronique. En 1578... Un voisin de Jeanne violente sa fille, donc sa fille dont je viens de parler, Rosalie. Et du coup, Jeanne veut se venger de voisin pas très très sympathique. On comprend tout à fait pourquoi. Et elle va vouloir utiliser des maléfices sur ce voisin.
Ouais.
Sauf que Jeanne n'est pas super futée, répand le maléfice sur un chemin emprunté par le voisin. Que comme c'est pas un chemin privé, bah, y a un autre voisin qui passe. Un mec, genre, brave cultivateur, qui a rien demandé, il passe par là, tout, je me promène, et paf, maléfice dans sa tronche.
Non, mais écoute, à un moment donné, il y a des dommages collatéraux partout. Si on doit faire gaffe aux paysans qui marchent sur le même chemin et tout, on va jamais s'en sortir.
Trop compliqué. Elle va être en panique, donc, parce qu'elle a un peu lancé un maléfice sur un mec qui avait rien fait. Et... du coup, elle va aller voir l'homme en noir pour lui demander de l'aide. Il va lui répondre qu'il ne peut rien faire et qu'elle ne doit plus jamais venir le revoir.
Mais il sert à rien !
38 ans avec ce mec, elle lui demande un truc et il ne veut pas.
C'est hallucinant. D'ailleurs, il faut qu'on lui donne un nom parce que l'homme en noir, c'est bien deux minutes. Je pense qu'on va l'appeler Martin.
Désolé à tous les Martins qui nous écoutent. Le cultivateur qui a reçu le maléfice parce qu'il se promenait au mauvais endroit au mauvais moment, il va malheureusement décéder. Malgré tous les efforts de Jeanne pour le soigner, elle va même s'excuser auprès de lui plusieurs fois. Donc, petite moralité de cette histoire, toujours vérifier le champ destinataire avant d'envoyer un maléfice.
Pas important, prenez des notes.
Suite à la mort de ce cultivateur, Jeanne va être arrêtée et écrouée au château de Ribemont, qui est toujours dans l'Aisne, où elle va être jugée par la personne dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui s'appelle Jean Baudin. Alors Jean Baudin, c'est lui qui a fait la biographie de Jeanne, et c'est un peu le grand méchant de l'histoire de la chasse aux sorcières en France. Donc Jeannot, on t'aime pas. Jean Baudin, il va menacer de torture Jeanne, qui, un peu évidemment, elle avoue qu'elle a fait de la sorcellerie, vu qu'elle a été menacée de torture, j'aurais fait pareil.
Je pense qu'elle a avoué plein d'autres trucs, sans rapport aucun.
Exactement. Suite à ses aveux, elle est condamnée à être brûlée vive en 1578. Voilà, donc Jeanne, vraiment super vie, joie, bonne humeur.
Remarque un schéma quand même chez les Jeannes, en termes de mort par le feu.
Ah oui. Et donc, je vous avais dit que cette histoire, c'est une histoire très importante dans l'histoire de la chasse aux sorcières en France. Et ça, c'est à cause de Jean Baudin. Puisque 2 ans après la mort de Jeanne, en 1580, Jean Baudin va écrire un livre qui va marquer cette histoire de la chasse aux sorcières et qui va même la marquer dans toute l'Europe. Ce livre, ça s'appelle « De la démonomanie des sorciers ». Super titre. Et ça explique comment on peut trouver les sorciers, ça explique que c'est quoi la magie, comment on peut empêcher des maléfices. Et il va se baser entre autres sur le procès de Jeanne pour écrire ce livre. C'est un peu le meilleur livre à l'époque, truc que tout le monde s'arrachait, tu vois.
Best-seller du siècle.
Exactement. D'après lui, bah, il va se baser toutes ses théories sur le procès de Jeanne. Et entre autres, le fait que le mystérieux homme en noir, ça serait le diable qui aurait influencé Jeanne.
Ah oui, ah, j'y avais pas pensé.
Donc, Martin, c'est le diable.
C'est pratique en même temps. Hein. Il n'est pas là, on ne peut pas le brûler.
Elle est la seule à le voir.
C'était pas Martin, c'était juste le diable. Comme quoi.
Dans son livre, Jean Bodin va avoir de super théories telles que, attention exemple, les procédures normales de protection des accusés sont superflues dans les procès de sorcellerie. Il n'y a besoin que d'un seul témoin de sexe masculin pour les interrogatoires. La torture et la délation sont à encourager.
Fortement recommandé.
Le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. Ah non, pardon, on m'informe que la dernière phrase, c'est pas Jean Bodin, c'est Marine Le Pen.
Est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce? C'est une vraie question.
Et donc, comme on vient de le dire, ce petit livre fort sympathique, dont je rappelle le titre, La démonomanie des sorciers, ça va devenir un best-seller, va être en vente dans toutes les bonnes librairies, et il va connaître 13 éditions en France, une traduction en allemand, une en italien et une en latin.
Ce bouquin a foutu le feu partout en Europe et c'est à cause de nous.
Exactement. Ce petit livre a servi à justifier tous les procès de sorcellerie et avoir des petites astuces pour bien faire ton procès de sorcellerie.
Toi aussi, brûle ta sorcière.
Tuto. Donc l'histoire de la pauvre Jeanne a servi à continuer à persécuter des femmes accusées de sorcellerie. Qu'en réalité, Jeanne, c'était surtout une étrangère, puisqu'elle est arrivée dans l'Aisne après la mort de sa mère. C'était une fille de prostituée, elle était décrite comme quelqu'un de très très belle. Du coup, c'était un peu la parfaite victime pour déverser sa haine à l'époque, encore aujourd'hui.
Tellement triste. Est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue, sa fille?
Non, je ne sais pas.
Des fois, il s'attaquait à la famille aussi.
Fort probable.
J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Rosalie.
Pas tout ce qu'on sait sur Jeanne, c'est des histoires qui sont racontées par Jean Bodin lui-même. Du coup, je trouve ça vachement triste et je voulais donc finir ma chronique avec une petite pensée émue pour Jeanne Arvillier, qui est une inconnue victime de la cruauté des autres. Voilà, c'était l'histoire, de Jeanne Arvillier.
Pense à toi, Jeanne.
Merci, Jeanne. Voilà. Du coup, tu comprends que j'ai pas voulu commencer notre premier épisode avec ce genre de... d'histoire de sorcière.
Tu m'étonnes.
Parce que c'est un genre vide merde. Mais alors
C'est quoi ce podcast horrible? Je vais arrêter de l'écouter tout de suite. Ouais, c'est malheureusement un des nombreux exemples.
Il y a des Jeanne Arvillier, il y en a eu plein d'autres.
J'ai le seum.
Voilà, sur ce, bonne journée.
Si vous voulez, allez vous chercher un petit chocolat chaud avant de continuer pour vous réconforter, vous avez le droit.
Heureusement que ta chronique, elle est après la mienne.
Est-ce qu'il y a des offres de fiction sur cette dame ou pas?
Je crois qu'il y a eu des téléfilms. Je vais regarder tout de suite ce que je te dis pas de bêtises. Oui, il y a eu un téléfilm en 1974 qui s'appelle Jeanne ou la révolte de Luc Godevet. Et sinon, il y a eu un livre en 1968 de Françoise Malé-Joris, qui s'appelle Jeanne ou la révolte, donc je pense que le téléfilm est une adaptation de ce livre. Et ça dépeint la vie de trois autres sorcières. De trois sorcières, dont Jeanne.
Remarque, fin des années 60, début 70, la vague féministe a dû passer par là.
Fort probable. Sinon, il y a la démonomanie des sorciers, fortement inspirée de la vie de Jeanne.
En plus, comme c'est très vieux, j'imagine qu'on peut le consulter gratuitement genre sur l'Internet mondial.
Je pense que sur le site de la Bibliothèque de France, il y a peut-être une version PDF. Ça doit être écrit en vieux français, donc ça doit être un peu spécial.
Idée de cadeau.
Oh, si tu nous mettais un peu de meilleure humeur avec ta petite chronique. Alors, de quoi tu nous parles?
Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du concept de kitchen witchcraft ou magie de cuisine. Est-ce que tu connaissais?
J'ai déjà vu des trucs sur YouTube où c'est genre. Parce qu'en fait, je cherchais des recettes et j'ai vu des trucs genre witchcraft dedans et du coup, j'ai cliqué.
Je souris parce que cette personne est serre d'aigle, mais elle a évidemment un ascendant pouf souffle.
Mais ça avait l'air trop bon en plus. C'était une recette de scones à la camomille.
Oh!
C'était genre pour t'aider à t'apaiser et tout.
Je ne suis pas allée, allée fouiller le YouTube pour ma chronique, mais je pense que je vais y aller pas longtemps après. S'il y a des scones.
Et bon appétit.
Bah, du coup, c'est essentiellement ça, hein, parce que en gros, c'est un concept qui repose sur le fait de trouver de la magie, slash sorcellerie, slash spiritualité dans le fait de faire la cuisine, de faire des gâteaux, des boissons, n'importe quoi qui se mange, et dans la cuisine.
Je valide.
Moi aussi. Du coup, la question que tout le monde doit être en train de se poser, et que je me suis aussi posée, c'est, mais du coup, est-ce que si on cuisine, on est tous des kitchen witch? Bon, déjà, la magie de cuisine, du coup, ça consisterait à mettre une certaine intention et en tout cas un soin particulier au fait de faire à manger, qui est quand même la tâche la plus quotidienne au monde. C'est-à-dire qu'en plus d'utiliser des ingrédients pour leur qualité nutritive, parce que bah, on est ce qu'on mange, donc quelque part on se métamorphose lentement grâce à ce qu'on mange, et en plus de cuisiner ces mêmes ingrédients pour leur plaisir gustatif, parce que le plaisir, c'est magique. On va aussi cuisiner des ingrédients pour ce qu'ils représentent ou ce qu'ils symbolisent. Donc, par exemple, on peut faire je sais pas, des cookies aux noix. Et comme la noix, ça symbolise dans plein de cultures l'abondance, la fertilité, parce que c'est un fruit qu'on retrouve aussi l'hiver, bah, je sais pas, en mangeant ton cookie, tu vas pouvoir prier pour avoir un CDI, un héritage.
Je mange plein de noix.
Rendez l'argent, les noix. En plus de ça, du coup, moi, je sais pas toi, mais ça m'évoque tout de suite quand j'entends parler de kitchen witchcraft, le principe de la potion, qui est quand même tellement sorcière. J'en profite pour faire une petite parenthèse, le saviez-vous? On a tendance à dire tisane ou infusion pour désigner la même boisson, alors qu'en fait, c'est pas la même chose. Toutes les tisanes ne sont pas des infusions, mais toutes les infusions sont des tisanes. Là, normalement, votre cerveau est en train d'exploser.
Alors, j'ai bugué.
En gros, il y a trois manières de préparer une tisane. La macération, la décoction et l'infusion. La macération, c'est quand on met les plantes dans de l'eau froide pendant longtemps. La décoction, c'est quand on les fait bouillir sur le feu quelques minutes. Et l'infusion, ça, c'est quand du coup, on verse de l'eau chaude hors feu sur les plantes. Voilà. C'était le petit moment Fred et Jamy.
En fait, quand tu fais un thé glacé, c'est pas une infusion.
C'est une macération. Eh, on apprend des choses dans ce podcast. qui dit potion dit bien sûr chaudron et dit plante, ce qui m'amène à faire le lien entre deux autres formes de magie, qui est donc la magie de maison et la green witchcraft, qui est la magie verte. Donc je propose qu'on parle en premier de la magie de maison, qui s'appelle house witchcraft ou hearthcraft. Health witch craft.
Ça passe.
Donc, en fait, ça veut dire plus ou moins la même chose, sauf que house witchcraft, c'est la magie qui se passe dans la maison, et hearth witch, c'est plus en termes de foyer, donc c'est dans une maison, mais c'est une maison qui est ton habitat personnel et intime, quoi. Et pour parler de ça, je me suis donc procuré un livre qui s'appelle The House Witch par Erin Murphy Hiscock. Et dedans, en gros, elle explique un peu le principe qui, vaguement, est de faire de son habitat un lieu plus ou moins magique et spirituel, en tout cas à ses yeux.
Elle te donne des petites astuces, des petits tutos?
Ouais, il y a des tutos, il y a des listes d'ingrédients, il y a des recettes. D'ailleurs, il y a une recette de cookies qui a l'air plutôt pas mal.
Est-ce qu'il y a des noix?
Oui. C'est son exemple que je citais. Aussi des listes, la liste des déesses dans plusieurs cultures qui ont un peu le rôle d'être la déesse du foyer, comme la déesse Hestia qu'on connaît dans la mythologie grecque. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir que le cœur de la maison, surtout pour une pauvre souffle, c'est la cuisine. Donc, on retrouve plein de choses qui reviennent plus ou moins à la cuisine, comme le principe d'avoir un chaudron. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais le chaudron, dans plein de mythologies et d'histoires, ça fait plus ou moins toujours référence à une forme de magie, parce que c'est là qu'on transforme les aliments, vu qu'à la base, c'est quand même pour manger. Donc, en quelque sorte, il y a métamorphose grâce au chaudron. Et je pense par exemple à l'histoire celte du chaudron de Dagda, qui est un chaudron de ouf. Et en gros, ça a été un peu repris dans la BD Astérix parce que c'est là qu'on fabrique la potion magique. Mmh. On parle du coup de la potion magique de Panoramix. En parlant de druides, transition, on va parler de plantes.
Pouloulou. Oh joli.
Oh là là. Il y a donc un lien évident entre ce qu'on appelle du coup la sorcellerie de cuisine et la magie verte ou green witchcraft, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les plantes, ça se mange.
Pas toutes, attention.
Pas toutes, non. Ne mangez pas de leaf, par exemple.
N'allez pas vous promener en forêt et manger n'importe quoi.
Justement, le concept de magie verte, ça repose sur le fait de savoir connaître, reconnaître les plantes dans son environnement plus ou moins proche, et pourquoi pas de les faire pousser ou de les cueillir pour un but précis. Le but étant bien sûr de ne prendre que ce dont on a besoin. C'est un peu comme être herboriste, mais un peu plus classe.
Bah, c'est déjà classe, herboriste.
C'est déjà super classe. Moi, je pense au professeur Chourave qui... Quelle femme.
Quelle femme.
On pote les mandragores là, comme ça, boum, 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 l'une après l'autre. Elle sauve tout Poudlard et personne ne lui dit merci. Enfin, bref. Enfin, si, Dumbledore lui dit merci à la fin du tome 2, mais c'est pas assez.
Et puis bon, Dumbledore.
C'est un sujet pour un autre épisode, ça. Les concepts de magie verte et de magie de cuisine, ça se rejoint parce que le but, c'est quand même d'avoir un minimum de connaissances en botanique pour justement ne pas mourir. Je pense par exemple aussi aux champignons, parce que quand on est une green witch, on ne s'intéresse pas que aux plantes, mais aussi aux champis. Donc voilà, c'est mieux aussi si c'est des ingrédients de qualité que tu trouves et à peu près éthiques. Ou que tu transformes en tout cas toi-même, parce que bah, la cuisine c'est quand même de la transformation et c'est pour ça que c'est un peu magique, parce que on peut appeler ça de la physique, de l'alchimie, ou même juste manger des restes dans une poêle avec un oignon.
C'est vachement moins glamour.
C'est moins glamour, mais c'est magique aussi. Ceci étant dit, je trouve qu'il y a quand même deux réflexions qui sont intéressantes à avoir sur ce sujet, et ça marche aussi pour la sorcellerie en général. La première, c'est bah, du coup, partir de quel moment on considère que quelque chose est magique. Je me souviens qu'au début, quand on réfléchissait à ce qu'on allait mettre dans ce podcast, je t'avais demandé, bah, du coup, qu'est-ce que nous, on considère comme de la magie ? Et tu m'avais dit, bah, ce que nous, on trouve qui est magique.
Ça me ressemble bien.
Meilleure réponse. Vas-y, je suis capricorne, j'ai pas le temps pour tes conneries. Et du coup... C'est pas faux, en vrai, parce que l'exemple, je trouve, de la magie de cuisine, qu'on appelle ça magie de cuisine ou juste faire à manger, bah, ça montre bien pour moi à quel point c'est un peu comme la foi, c'est très subjectif et intime de penser que quelque chose est magique ou spirituel pour soi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des gens qui vont voir de la magie dans, je sais pas, faire un rituel avec des bougies, tirer des cartes et tout. Et il y a des gens qui vont voir de la magie dans des toutes petites choses du quotidien. Moi, j'ai quand même l'impression que ce serait une forme de prétexte pour profiter à fond de trucs que tu pourrais prendre pour acquis et les voir pour ce qu'elles sont, quoi. Ah oui, d'ailleurs, à propos de ça, j'ai une anecdote. Il y a un film qui s'appelle Boyhood. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Non, mais j'ai entendu parler de ce film.
En fait, on en avait beaucoup parlé à un moment donné parce que le film avait été filmé sur une dizaine d'années avec les mêmes acteurs et ça parlait d'un garçon, du coup, qu'on a vu grandir dans le film. Bon, je me souviens pas de beaucoup de choses du film, sauf qu'il y avait Patricia Arquette, qui est super. Mais il y a une scène très intéressante où le gamin demande à son père « Tu crois que ça existe, la magie ?» Et donc, du coup, son père lui dit « Mais qu'est-ce que tu entends par magie ?» Et donc, son fils lui dit « Bah, tu sais, les elfes, les licornes, la magie, quoi. » Et là, son père, il lui dit le meilleur truc. Il lui dit qu'en gros, si on nous disait pour la première fois de notre vie qu'il existe un animal marin gigantesque, aussi grand qu'une maison, qui crache de l'eau par son dos et qui communique avec ses semblables en chantant sous la mer, bah en fait, on n'y croirait pas, ce serait carrément surnaturel de ouf. Et pourtant, bah, ça existe et ça s'appelle une baleine.
J'avais une pote à la fac, elle a fait des études de médecine. Et elle m'avait dit, tu vois, si on me demande de décrire ce que c'est que la magie, moi je dirais c'est ça, c'est toutes nos cellules, tout notre organisme qui fonctionne et qui arrive à nous faire vivre sans qu'on en ait même conscience.
Oh, c'est beau! La magie, c'est la vie. C'est super émouvant. J'ai envie de dire, si t'as envie de trouver des choses magiques parce que ça te permet de t'émerveiller de petites choses du quotidien et que ça te fait du bien, bah go! Parce que, et je vais citer Kaamelott.
Et ça, c'est très important pour la santé du cigare.
Et du coup, ma deuxième réflexion, qui est un peu moins bisous chaton, Ça m'a été inspiré par ma copine Megan, qui est Gémeaux et qui du coup a toujours plein d'idées et de critiques sur les choses. Quand je lui ai parlé de ma chronique et du livre The House Witch, du concept de magie de cuisine et du foyer et de tout ça, elle m'avait dit un truc que j'avais trouvé intéressant. Elle m'avait dit que ça lui faisait penser en fait à tous les thèmes qu'on met dans les magazines féminins, mais retravaillés à la sauce spirituelle et à la sauce sorcière, quoi. Et du coup, même si je pense que c'est en partie parce que on estime que toutes les petites choses triviales un peu du quotidien, c'est moins important que le reste parce que c'est dans la sphère privée et que c'est associé aux femmes, du coup, d'un côté, je trouve que c'est cool de revaloriser ces sujets un peu privés et de l'ordre un peu de l'intime et de l'émotion, du quotidien en tout cas. Je trouve que quand même, elle n'a pas tort parce que Fashion Witch, House Witch, magie verte, magie blanche, magie noire, magie rouge, magie violette, tout ça c'est très étiqueté et qui étiquette dit aussi marketing. Pose un peu pour moi la question de la mode en fait, de la sorcellerie. Il y a toujours eu des modes de sorcellerie, hein, genre je crois que dans les années 20 c'était très à la mode de faire des séances de spiritisme par exemple. C'était probablement à cause de l'opium, on va pas se mentir.
Et puis c'est de la guerre aussi, avec toutes les personnes qui étaient décédées.
Oh non, c'est horrible, j'avais pas pensé à ça, oui.
On repart dans le triste.
Non, mais du coup, oui, la sorcellerie et l'ésotérisme, de manière générale, c'est quand même un business. Déjà, il y a des gens qui ont appris ces pratiques et qui les partagent et qui en vivent de manière honnête. Il y a aussi des charlatans, comme partout, et il y a des grandes entreprises qui essayent de surfer un peu sur la vague de cette mode. Ça n'a pas dû vous échapper entre la mode, la déco et tout ça. On vit dans un monde capitaliste, donc ça n'a rien d'étonnant, mais on voit des trucs liés à la sorcellerie, à l'astrologie et au tarot un peu partout. Et même si c'est chouette parce que nous, on a un peu baigné là-dedans dans la pop culture et tout, et du coup, ça nous parle, c'est quand même intéressant de se demander d'où vient le savoir qui est transmis et qui en tire son beurre, parce que c'est un peu comme les questions d'appropriation culturelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais expliquer, avec un lien avec l'ésotérisme. Par exemple, en fait, l'appropriation culturelle, c'est quand un objet ou une pratique qui appartient à une communauté qui est dominée est appropriée par une communauté dominante qui, elle, va en tirer des bénéfices. Par exemple, le coup de la sauge blanche qu'on brûle partout. Ça vient des cultures natives américaines. Et aujourd'hui, c'est très, très à la mode en Occident. On trouve de la sauge à brûler genre sur Amazon, etc., qui sont des grosses entreprises qui sont régies par des blancs et des riches. Du coup, c'est pas du tout ces autochtones-là qui en profitent, et pourtant c'est leur culture, et en plus de ça, ils subissent encore le joug de la colonisation et du racisme.
Il y a aussi, moi, ce qui me dérange toujours dans ce genre de choses, c'est que du coup, les gens ne savent plus d'où ça vient, et utilisent les trucs sans se rendre compte qu'il y a toute une histoire derrière, et que ça peut blesser les gens, et que... Il n'y a pas de problème qu'une personne blanche utilise de la sauge. Mais si c'est juste quelqu'un qui a vu ça sur Instagram, qui dit « Ah, trop bien, j'en veux !» et j'achète sur Internet, je comprends que ça peut blesser les personnes pour qui c'est des rituels traditionnels.
Et puis même au-delà de ça, il y a aussi de savoir d'où ça vient, où tu l'achètes, parce que de manière très triviale, l'argent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et... Du coup, ouais, éviter d'engraisser toujours les mêmes, quoi.
Le podcast est devenu très engagé très vite.
On propose un peu toujours tout et n'importe quoi à la sauce witchy. Encore une fois, on ne va pas s'en plaindre parce que nous, on aime bien. Puis en plus, c'est plutôt cool qu'il y ait une réappropriation de cette image qui a été longtemps très négative par le féminisme, notamment avec, par exemple, le livre de Mona Chollet, Sorcière, ou même dans les séries et tout. Mais c'est aussi du coup pas mal quand même de se demander si ce serait pas une sorte de witch-washing.
Oh.
Je mets des guillemets parce que je crois que le terme n'est pas déposé. Si vous connaissez le greenwashing, qui consiste à récupérer l'écologisme à des fins commerciales, et le pinkwashing, qui fait la même chose avec le féminisme, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mix des deux avec le witchwashing, parce que du coup, souvent, les entreprises vont viser un public plutôt féminin, plutôt féministe, et des consommateurs assez écolos, tout ça.
C'est vrai.
Parce que je vais trop loin. Le monde est-il corrompu ou vais-je encore trop loin ?
On est pessimiste. Mais je repensais à ce que tu disais que du coup que les gens ont décidé de mettre cette intention de faire de la magie en faisant de la cuisine. C'est, je trouve ça un peu évident de prendre la cuisine comme quelque chose de magique, parce que c'est quelque chose de très ritualisé, avec les recettes tout simplement qu'il faut suivre pour pouvoir réussir à faire son plat. Il y a beaucoup de techniques à maîtriser, sinon ça donne pas ce qu'on veut. Et après, il y a, une fois qu'on a fini de cuisiner, il y a les effets qui, outre l'effet de se nourrir et d'avoir de l'énergie, il y a aussi offrir de la nourriture à quelqu'un, ça lui fait plaisir, faire des plats chauds en hiver, des choses comme ça. Et du coup, je trouve ça assez logique que des gens ont repris ce domaine pour en faire quelque chose de spiritueux, c'est de l'alcool, mais...
Spirituel.
Spirituel. Merci. parce que du coup, c'est des thèmes qui sont assez liés, quoi.
En plus, ce que tu disais avec le partage, c'est très... dans toutes les pratiques et les domaines de magie ou de spiritualisme, c'est... Spiritualisme. Mais bon, dans tous les domaines de magie, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on estime que quand on a un savoir-faire ou un don, on se doit plus ou moins d'en faire profiter la communauté. Et puis, comme je disais tout à l'heure, par exemple, une sorcière verte, elle va accueillir des choses en essayant de ne prendre que ce dont elle a besoin pour rester, pour pas dominer la nature, mais rester dans un rapport le plus horizontal possible avec les choses. Et puis, du coup, je trouve que faire à manger et partager ce que tu manges avec les autres, c'est horrible. Ça fait un an que j'ai pas fait la cuisine pour des gens, mais qu'il y a de plus magique qu'un énorme plat de ratatouille.
Mais après aussi, dans toutes les religions, la nourriture a une place importante. Par exemple, en ce moment, c'est le ramadan, il y a tous les plats qui sont liés à ça, avec la rupture du jeûne. On vient de célébrer Pâques, il y a l'agneau pour les chrétiens. Et du coup, c'est assez logique que
dans le mouvement de sorcellerie, witchcraft, il y a aussi tout un lien avec la nourriture.
Ouf. Puis il y a ce côté un peu de transmission aussi, parce que les fêtes familiales, comme celles qui sont en train de se passer en ce moment, c'est le moment où les gens vont s'apprendre à cuisiner. Et puis tu vas être content de savoir cuisiner tel plat, mais tu es encore plus content de savoir cuisiner le plat que ta tante fait, parce que tu l'aimes. Et du coup, comme l'amour, c'est magique, nanana, un bisou chaton, voilà. C'était mignon quand même comme fin de chronique.
Du coup, pour rester dans la bonne humeur, est-ce qu'on parlerait pas, on passerait pas à la petite partie anecdote?
Oui.
Clôturer cet épisode.
Vas-y, tu commences.
Alors, mon anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus une recommandation. Parce que depuis toujours, j'aime beaucoup les histoires de fantasy, j'aime beaucoup tout ce qui est littérature anglaise, et du coup je me suis enfin mise à lire du Terry Pratchett, qui est un auteur très très connu en Angleterre, même aussi ici en France, dans le domaine de la fantasy, qui a écrit, plus d'une cinquantaine de livres.
Ah, je sais ce que c'est.
Quoi ?
Le Disque Monde ?
Oui, il y a à peu près 34 livres dans sa série des Disques Mondes. Alors évidemment, j'ai pas lu les 34 depuis que j'ai commencé, j'en ai lu que 3. Et donc je vais vous parler du premier que j'ai lu.
Et je vais vous parler de celui qui s'appelle Trois sorcières,
que j'ai choisi parce que j'ai deux sœurs, donc on est trois sorcières.
Oh.
Et donc, je l'ai beaucoup aimé, il est très très drôle, et donc il va nous faire suivre l'aventure de ces trois sorcières. Et ces trois sorcières, on les rencontre une nuit de pleine lune autour d'un gros chaudron, justement, on en parlait.
Et il y a tout de suite des gros parallèles avec les pièces de Shakespeare, que vous allez retrouver dans tout le livre.
Les Anglais.
Et... leur histoire va être, l'histoire de ces trois sorcières va être bousculée par un petit bébé qui leur est confié.
Merde.
Qu'elles découvrent être l'héritier du royaume et qu'il faut cacher parce que son méchant oncle a assassiné son père et veut prendre la place de roi. Donc, c'est un livre super drôle. Si vous aimez la fantasy, allez-y. Si vous aimez l'humour, allez-y. Si vous aimez Shakespeare, allez-y. Si vous aimez les sorcières, allez-y. Bref. Vous
aimez les chaudrons, allez-y.
Ça parle un peu de nourriture, je crois. Des sorcières qui aiment beaucoup la nourriture. Il y a les trois sorcières, elles ont toutes une personnalité différente. Tu vas voir la vieille un peu aigrie, tu vas avoir la très maternelle, très vulgaire aussi. Et la dernière, c'est la jeune qui est encore... Enfin, c'est une toute nouvelle sorcière, toute naïve. Elle veut faire les choses comme nous, on s'attendrait à ce que les sorcières fassent. Par exemple, elle veut qu'on ait un vrai chaudron en fonte et tout. Et puis les autres lui disent, mais non, prends une casserole, ça ira plus vite, quoi. Plus personne n'utilise des chaudrons.
La milléniale qui veut un chaudron vintage.
Exactement. Et elle est pas, du coup, elle est méprisée, elle est un peu maîtrisée par les deux autres parce qu'elle y connaît rien, elle, c'est la nouvelle, quoi. Voilà, du coup, c'était ma recommandation. Pratchett, Trois sorcières, les annales du disque monde.
Ça a l'air super bien. Moi, ça m'a donné envie de le lire.
C'est l'auteur de BD Boulet qui a conseillé Terry Pratchett.
Merci Boulet.
Du coup, j'ai suivi ses conseils parce que c'est un gros fan. Je lui ai demandé par quel livre commencer. Il m'a dit par Le Guet, que j'ai lu aussi.
Suis les conseils.
Donc, merci Boulet.
D'abord, j'ai un suivi d'anecdotes, parce que si vous avez écouté l'épisode 1, vous vous souviendrez peut-être qu'en fin d'épisode, je parlais d'un magazine que j'avais lu quand j'étais toute jeune ado et dont je ne me souvenais pas du nom, qui était un magazine sur une école de sorcellerie fictive. Et grâce à vous, on a réussi à retrouver ce que c'était. Et comme je ne sais pas gérer mon argent, j'en ai acheté deux exemplaires sur Vinted. C'est incroyable. Ça s'appelle Magic Academy et vraiment c'est un condensé des années 2000. Là par exemple, je tiens dans mes mains le numéro 4 et le hors-série numéro 1. Et sur le hors-série numéro 1, la couverture c'est Sarah Michelle Gellar de Buffy, c'est Hermione Granger et c'est Jennifer de la Starac.
Ouais, donc très années 2000. Mais sur toutes les couvertures que j'ai vues sur Google quand tu tapes ce magazine, il y a Harry Potter, Charmed et Orlando Bloom.
Mais oui, il y a aussi Smallville.
Ouais, Smallville.
Ouais, Le Seigneur des Anneaux. Sabrina, l'apprentie sorcière.
Oh.
Ce magazine, j'avais complètement oublié qu'il y avait un côté un peu people comme ça, parce qu'en fait, je crois que je confondais avec le magazine One, que vous devez sûrement connaître si vous avez grandi dans les années 2000.
Vous avez tous eu des posters sur les murs de votre chambre.
Oui, d'ailleurs, quand j'ai commandé les magazines, je me suis dit, peut-être que la dame, elle a laissé les posters dedans. Pff, pas du tout.
Oh.
J'aurais pas dû espérer. Ce serait bizarre aujourd'hui d'avoir un poster d'Orlando Bloom dans mes toilettes. On ne sait pas. En tout cas, c'est très... Ça fait un peu mal aux yeux en termes d'organisation. Il y a plein de couleurs, il y a plein de polices. Ça va dans tous les sens. C'est un mix entre un skyblog et la Gazette du Sorcier dans les films Harry Potter. Je recommande. Si jamais vous avez des vieux exemplaires de ce magazine chez vous, regardez, c'est très rigolo. Et si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble sur nos réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, on a montré du coup des petits bouts de ces œuvres d'art. Hein, il ne faut pas se le cacher. D'ailleurs, dedans, il y avait un test. Êtes-vous un ou une sorcière de la Lune ? Déjà, tentative d'écriture inclusive précoce, on adore.
Carrément.
Mais du coup, ouais, je pense que c'était quand même plus ou moins orienté pour les filles parce qu'il y avait plein de choses que tu retrouves dans les magazines féminins, mais je pense qu'ils ont quand même voulu attirer tous les publics.
Alors, t'as fait le test ?
Ouais, pardon, j'ai fait le test et j'ai eu 4 points pour Lune et 4 points pour Soleil. Super. Ça me fait une belle jambe.
Merde.
Génial. Sachant que comme tout le monde, je voulais être Lune parce que Soleil, vas-y, c'est trop mainstream. Mais bon, ça n'a pas marché comme ça. Du coup, voilà, ça c'était mon suivi d'anecdotes. Et maintenant, j'ai une mini-anecdote en forme de tuto, un peu.
Oh.
Dans le livre How to Witch, l'autrice, elle explique qu'il y a une tradition dans les pays du nord de l'Europe et un petit peu du milieu vers l'Allemagne, qui consiste en gros à avoir dans sa cuisine une figurine, une petite figurine de sorcière pour porter chance et abondance et tout ça.
Oui, ils en vendent partout en Allemagne.
Mais je connaissais pas, moi. Mais apparemment, c'est quand même mieux si tu l'as fait toi-même, genre en épi de maïs, en blé, en paille, avec des fruits secs, enfin bref, avec plein de trucs que tu peux ensuite composter. Parce qu'en gros, le but, ce serait de la garder pendant l'hiver pour porter chance pour les prochaines récoltes et pour, si tu fais une pâte à pain qu'elle est en train de lever, ça devrait aider à faire en sorte qu'elle retombe pas, il paraît. Et du coup, après, tu jettes et tu en refais une à la fin de l'été et c'est le cercle de la vie.
Ah.
Je pense qu'on devrait tous et toutes essayer de fabriquer une petite poupée de sorcière mi-mignon, mi-creepy. Il y a un petit côté Blair Witch Project
et ensuite la mettre au compost. C'est un peu violent quand même à la fin de la foutre à la poubelle.
Je pense que la poupée, il y a moyen qu'elle t'en veuille. Donc
Moi, je vais pas en faire une parce que justement, j'aurais peur après.
Tuto figurine, ça tourne mal. La fin.
On a réussi, on a fait un deuxième épisode. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de notre podcast C'est pas sorcière. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sachant qu'on a une page Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter.
Merci à Moon and Sun pour la musique et Craig, notre ingé son.
N'oubliez pas de rester magique.